Ave Maria, chers auditeurs de Radio Immaculée Conception, bienvenue dans votre émission de santé, le corps à cœur. Alors la semaine dernière, vous étiez avec Nazaire pour parler de la tuberculose. On vous retrouve cette semaine. Nous avions parlé précédemment des apprentissages en primaire. Cette semaine, nous allons nous arrêter sur un trouble bien spécifique aux apprentissages, la dyslexie. Alors qu'est-ce que c'est la dyslexie? D'où ça vient? Comment réagir? C'est tout ça que nous allons voir. Alors, la dyslexie, qu'est-ce que c'est? La dyslexie, c'est en fait une difficulté anormale de l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire que l'enfant qui apprend à lire, vraiment, au bout d'un an, deux ans, même trois ans, a vraiment beaucoup de mal à apprendre à lire correctement, à connaître l'orthographe des mots. Quand il fait beaucoup d'efforts et qu'il n'arrive pas à apprendre, que ça n'est toujours pas fluide dans sa lecture, là on peut parler de dyslexie. Alors, quels signes on peut voir, sœur Paulette, pour la dyslexie?
En termes de signes, Camille, je peux dire déjà en CP, l'enfant a des difficultés pour associer un son à une lettre. Par exemple, quand on dit « ba », c'est difficile pour lui de comprendre que c'est la lettre « b », par exemple. Aussi, quand on dit « ta », il ne conçoit pas que c'est la lettre T.
Voilà, faire le lien voilà, entre les deux, quoi.
Voilà, exactement. Donc, non seulement il a ce problème, mais aussi il mélange les lettres qui sont proches visuellement. Si je prends par exemple le P et le Q, tu vois, là, le sens des ronds, il n'arrive pas à s'adapter rapidement. De même que quand on prend les lettres B, B et D. Même chose pour les sens. Et aussi, d'autres ont ce problème de bâtonner, c'est-à-dire quand tu prends le B et le Q, il y a le problème du sens des ronds et le problème du sens des bâtonnets debout.
C'est ça. Voilà. Ils ont du mal à trouver leur repère visuellement.
Voilà. Et puis, quand chez les enfants les plus grands, on voit qu'il y a une lenteur, une grande lenteur dans la lecture. Et même s'ils font la lecture, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a inversion des lettres. Par exemple, au lieu de bien dire chocolat, il peut dire colocha. Ou il mélange les mots. Au lieu de dire feuille, il peut dire feuillage. Ou bien au lieu de dire cabane, il dit maison. Parce qu'ils n'ont pas la bonne conception des choses.
Voilà, en lisant, au lieu de lire l'un, ils vont lire l'autre.
Quoi. Voilà, c'est très facile chez eux de faire ces erreurs-là. Donc, non seulement ça, l'enfant a aussi des difficultés pour retenir l'orthographe des mots.
Beaucoup. L'orthographe, c'est comment on écrit les mots, quelles lettres on doit mettre pour bien écrire, les lettres qu'on entend et les lettres qu'on n'entend pas. Et ça, c'est vraiment difficile pour les enfants, d'arriver à bien écrire les mots correctement sans faute.
Exactement. En dehors de ça, l'enfant a des difficultés pour retrouver les espaces entre les mots. Quand je dis une antenne, pour lui, c'est difficile de comprendre qu'une est à part. Antenne s'écrit en un seul mot, c'est-à-dire antenne. Il peut différencier, il peut mettre en à part et ten à part. Donc, il n'arrive pas à avoir la bonne conception des mots tels que tu viens de le dire par rapport à l'orthographe. Le bon mot, comment ça s'écrit? Il a du mal à concevoir en lui et à retenir l'orthographe vrai de ce mot-là. Aussi, il fait des efforts pour retenir l'orthographe des mots, comme on vient de le dire, mais il n'arrive pas. Donc, il a déjà cette déficience-là. Malgré les efforts qu'il fait, il dépense beaucoup d'énergie, il se fatigue vite, mais il n'a rien pour compenser ses difficultés. Parce que il se donne à fond, au bout du tunnel, il se décourage très vite. Alors, il faut travailler ça chez la personne en dyslexique.
Ça, oui. Et c'est vrai que il fait beaucoup d'efforts, mais dû à cette difficulté qu'est la dyslexie, eh bien, ces efforts vont pas donner beaucoup de progrès très vite quand il est tout seul et que personne ne l'aide. Alors la dyslexie, elle peut aussi s'accompagner d'autres difficultés, en plus de la lecture et de l'orthographe, des conséquences. Ça va être par exemple l'attention. Il va faire plus d'efforts que les autres pour lire et pour écrire, et donc sa concentration diminue plus vite. Par exemple, moi je donne l'image aux enfants, pour leur expliquer, aux enfants dyslexiques, pour leur expliquer leurs difficultés, je leur donne l'image d'un petit sac d'attention. C'est ce que m'avait enseigné mon professeur à l'école d'orthophonie.
J'imagine.
Ce petit sac d'attention, c'est comme si chaque élève partait le matin dans son cartable avec un sac d'attention. Et puis, quand vient le premier exercice, il doit lire l'énoncé de l'exercice, la consigne, et puis après, réfléchir et faire l'exercice. Mmh. Eh bien, il va prendre un tout petit peu d'énergie, un tout petit peu de concentration dans son sac pour lire la consigne, et après, beaucoup de concentration dans son sac pour réaliser l'exercice. Puis après, il passe au deuxième exercice et il va prendre encore un peu de concentration dans son sac. Et puis, va venir enfin la pause où là, il va pouvoir se reposer et du coup, récupérer de l'attention dans son sac et de la concentration. Eh bien, l'enfant dyslexique, lui, comment ça se passe ? Au premier exercice, quand il doit lire la consigne, lire l'énoncé, c'est déjà vraiment difficile pour lui, cette lecture, et il prend déjà toute l'énergie dans le sac. Son sac est vide ensuite. Alors, pour faire l'exercice, bah, y a plus rien, il n'y a plus de concentration. Donc, on peut lui dire qu'il n'arrive pas bien à se concentrer, qu'il pense à autre chose, qu'il n'arrête pas de bouger sur sa chaise. Mais en fait, c'est pas de sa faute, c'est que son sac de concentration est tout vide, parce que cette lecture de l'énoncé a été trop coûteuse pour lui, a demandé trop de concentration. Donc, il attend la récréation maintenant pour pouvoir recharger son sac. Donc, il va avoir une note très faible à l'exercice parce qu'il a plus de concentration pour faire l'exercice. Mais c'est qu'en fait, il a déjà, c'est pas qu'il est bête, c'est que il a déjà tout pris pour lire l'énoncé.
Malgré ses efforts.
Exactement. Il peut y avoir aussi une difficulté à mémoriser, c'est-à-dire à retenir. Les dyslexiques, on pourrait dire qu'ils ont une moins bonne mémoire en ce qui concerne l'écrit. Parce qu'après, pour d'autres choses, ils peuvent avoir une bonne mémoire.
Très
mais
bien.
Quand ça concerne les choses écrites, ils ont vraiment des difficultés à retenir. Et à retenir par cœur, c'est aussi très difficile pour eux. Donc, il ne faut pas leur demander de retenir quelque chose par cœur. Ils ont moins de mémoire que les autres. Mmh. Donc, il faut leur demander de retenir moins que les autres. Ils vont aussi avoir des difficultés d'orientation spatio-temporelle. Alors ça, c'est nos grands mots d'orthophoniste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont du mal à se repérer dans le temps, à savoir c'est quand, avant, après, qu'est-ce qu'il y a, dans quel ordre, etc. Et puis, dans l'espace, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Tout ça, c'est difficile pour eux.
Alors, quand j'ai ce problème, déjà, je suis dyslexique.
C'est pas parce qu'on a un de ces problèmes-là, qu'on est dyslexique, c'est vrai que tu as raison de poser la question. Les auditeurs peuvent se la poser aussi. Est-ce que si j'ai du mal à retenir, à avoir de l'attention, est-ce que si j'ai du mal à apprendre par cœur, est-ce que...
Ou bien si, par exemple, j'ai du mal à me repérer pour indiquer un endroit à quelqu'un, si j'ai du mal à
indiquer, dire la droite et la
voilà,
gauche.
À dire la droite et la gauche, déjà, je suis dyslexique, alors.
Ah, il faudrait voir l'orthophoniste. Sœur Paulette, on va faire une petite consultation. Non, il faut que tout ça soit rassemblé pour pouvoir parler de dyslexie et surtout d'avoir des difficultés à lire et à orthographier les mots. Voilà. Mais alors, on pourrait se dire...
Parlant de cause, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à être dyslexique ? Je ne sais pas. Il faut qu'on explique cela aux auditeurs. Camille.
Exactement. Les causes, c'est-à-dire d'où ça vient, en fait. Il n'y a pas de cause exacte. Encore connu.
Très bien.
Mais plusieurs informations sont maintenant certaines. Les chercheurs sont sûrs que les troubles d'apprentissage ont une cause neurologique et peut-être un facteur héréditaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cerveau de la personne dyslexique, il est différent. On peut voir au microscope, quand on regarde le cerveau d'une personne qui a été dyslexique, des petits amas de cellules, des petits tas de neurones. Ça s'appelle des ectopies. Voilà, des endroits dans le cerveau où il y a des petits tas de neurones. Et c'est ça qui forme des différences et qui empêche la lecture et l'orthographe de se dérouler normalement.
Alors, quand on parle de facteur héréditaire, si par exemple je suis dyslexique, c'est d'office que mon enfant serait dyslexique?
C'est ça, c'est que c'est pas encore sûr, mais on remarque qu'il y a des familles où il y a des dyslexiques à chaque génération. Le papa est dyslexique, son fils va être dyslexique et sa petite-fille va
L'un de
devenir
ses
dyslexique.
fils, ou bien peut-être l'un de ses fils.
Peut-être.
Voilà.
Peut-être l'un de ses
Donc
fils.
c'est pas automatique.
Non,
pas
c'est
du
pas
tout.
automatique. C'est pas automatique. Et peut-être sur tous les enfants, peut-être
Aucun.
aucun, peut-être tous, peut-être un. Bon, on peut pas savoir. Mais c'est pour ça qu'il y a des recherches encore scientifiques là-dessus pour
En
essayer de
fait, c'est pour que
comprendre.
les auditeurs puissent bien comprendre que, en fait, quand on parle d'hérédité, c'est pas automatique. Non, rassurez-vous. S'il
Voilà.
y a quelqu'un qui est dyslexique, on fait le bilan pour voir vraiment si l'enfant est dyslexique. Et si c'est vraiment le cas, on l'aide au mieux.
C'est ça. C'est ça. Donc, comme c'est une différence structurelle au niveau du cerveau, ça se passe vraiment dans son cerveau, eh bien, on ne peut pas l'effacer, cette différence. Et on reste dyslexique toute sa vie, même quand on devient adolescent et adulte. Par contre, même si la lecture et l'orthographe seront nos points faibles, c'est pas pour ça qu'on ne pourra pas apprendre à dépasser ces difficultés, pour qu'elles deviennent moins gênantes. On pourra par exemple apprendre à lire, même si on lit plus lentement que les autres. Ça, c'est pas très grave. Nous allons faire une petite pause musicale. Tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, en fait, ça veut dire que si je suis dyslexique, est-ce que malgré mes prières, malgré mon imploration vers le Seigneur, je vais toujours demeurer dyslexique? Ça, je vous répondrai moi-même
Après la pause
après
musicale.
la pause musicale. Merci.
Vous l'ignorez peut-être, mais j'ai un enfant de 15 ans qui va à l'école. Pour ce qu'il fait, il pourrait rester à jouer dans le jardin, mais enfin, il va à l'école. Et un enfant de 15 ans, ça pose des problèmes. Alors, j'ai tenté de les exposer dans un petit poème que j'ai intitulé Enfantillage. Il y a des jours où je me questionne en regardant vivre mon enfant. D'en avoir un, déjà, ça m'étonne. Un enfant, c'est très étonnant, mais enfin, c'est la moindre des choses. Le mariage, quoi, c'est fait pour ça. Un rosier doit donner des roses, ben moi j'en donne. Et puis voilà. Mais quand je vois ce gosse partir en classe, poussant devant lui les pierres du chemin, il y a quelque chose en moi qui se passe, moitié joie et moitié chagrin. Ma joie, à moi, elle vient de ses larmes, quand le prof m'écrit que ça tourne pas rond, ou quand à la suite d'un vacarme, il y a de la fessée aux environs, quand il a mal aux dents, au ventre, quand il se flanque un marteau sous le doigt, ou quand il a l'âme pas contente, et que je sens qu'il a besoin de moi. Alors là, ben oui, je me laisse faire, je me mets en boule, mais je suis heureux. Je suis fier qu'il ait besoin de son père et je me marre en faisant les gros yeux. Mais maintenant, je le sens qui s'éloigne. Je le vois filer au loin parfois comme un horizon de rase campagne et il n'y a rien à faire contre ça. Il a ses joies et ses mystères, une âme, un cœur où je diminue et sûrement il a des misères pour lesquelles il ne m'appelle plus. Or, quand il a besoin de 100 balles, dit papa, t'as pas 300 francs, l'amour pour son père, il l'étale. Mais ça manque un peu de sentiment. C'est pas qu'il m'aime plus, il faut pas croire, il m'aime, mais c'est instinctivement. J'ai une bonne place dans sa mémoire, mais sa mémoire oublie souvent. Vous, vous pensez, pendant que je cause, mon fils à moi, c'est différent. Si vous voulez, parlons d'autre chose, mais attendez qu'il ait 15 ans. Je me plaignais un jour à mon père, il m'a répondu, mon garçon, c'est dur, je sais, mais faut y faire. C'est toi qui as tort, lui a raison. Ainsi, toi, Robert, je peux te le dire, tu m'as fait le même coup il y a 20 ans. Sois patient, ton fils va revenir et tu verras, ça fait plaisir. Et le vieux avait un de ses sourires. Alors maintenant, tranquille, j'attends.
Vous êtes bien sur Radio Immaculée Conception, le corps à cœur continue. Nous venons d'entendre Robert Lamoureux dire son poème « Enfantillage ».
Merci, ça fait un grand plaisir. Tout à l'heure, je disais, est-ce que malgré ma dyslexie, malgré les prières que je fais, est-ce que je vais demeurer ainsi? Il n'y a pas de miracle pour moi. Il y a peut-être un miracle, l'orthophoniste. Ah oui, l'orthophoniste peut beaucoup pour vous, même si vous allez grandir, rester toute votre vie avec ce problème, ce ne serait plus les mêmes. il y aura une grande partie qui va s'évader comme dans le vent. Donc, la première des choses à dire, c'est que l'orthophoniste va vous aider, va aider votre enfant dans ses difficultés pour mieux lire, pour mieux écrire et faire moins d'efforts qu'avant. L'orthophoniste, d'abord, va faire un bilan pour voir vraiment est-ce que c'est un problème de dyslexie. Et si vraiment c'est le cas, vous pouvez m'appeler, je peux vous aider.
À quel numéro, sœur Paulette?
Au 94 12 27 12. Et même si c'est pas moi directement, je peux vous donner le contact d'un collègue qui peut répondre à vos attentes.
Alors, ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que l'enfant n'est pas paresseux. Au contraire, il fait plus de travail que les autres pour arriver au même résultat. Moi, je donne souvent aux enfants, pour qu'ils comprennent un peu leur difficulté, l'image de la route. C'est comme si, pour lire un mot, on prenait le cerveau voit le mot à lire, et puis, hop, il prend la route de la lecture, et vite, 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 il file pour pouvoir le lire facilement. Eh bien, c'est comme si, pour l'enfant dyslexique, sur cette route, il y a un gros camion qui a eu un accident et qui bloque le passage. Comment faire? Eh bien, on doit prendre un chemin à côté pour pouvoir passer quand même et arriver au même résultat, arriver au bout du chemin là où on voulait aller. L'enfant dyslexique, c'est pareil. Ses neurones vont aller moins vite puisque la route facile est coupée. Donc, ils vont devoir prendre un autre chemin qui est plus fatigant. Ils vont faire plus d'efforts pour arriver au même résultat. Et donc, qu'est-ce qu'on voudrait, nous, avoir quand on change de chemin, quand on contourne la route? Ça nous aiderait bien d'avoir, par exemple, une bonne voiture, un bon 4x4, là, tout terrain, qui va partout. L'enfant, c'est pareil. Il faut lui trouver un outil pour lui faciliter la tâche, parce que c'est sûr qu'il va devoir prendre ce chemin-là, alors autant que ça devienne un chemin facile.
Alors, pour ça, Camille, je vais donner quelques conseils à nos auditeurs. Et en cela, par exemple, si vous êtes en classe avec un enfant dyslexique, si vous êtes l'enseignant, ne lui demandez pas devant tout le monde d'aller au tableau et d'écrire ou bien de lire à haute voix. Ça, c'est l'humilier, c'est l'abaisser. Il ne va pas comprendre que vous puissiez lui faire ça. C'est l'amener à se recroqueviller. Donc, du coup, il vaudrait mieux que le professeur le rassure, lui dit: je te ferai lire après, mais tu ne vas pas lire à haute voix, et lui faciliter l'expression orale plutôt que de le faire écrire à tout bout de champ. Maintenant, évaluer ses connaissances suivant l'expression orale, ce serait bien mieux. Ne pas enlever des points pour l'orthographe quand il écrit, parce qu'on sait déjà ses difficultés. Avec lui, vous savez que il a des difficultés en orthographe, donc c'est pas la peine de le faire écrire tout le temps. Donc, il faut pas le laisser aussi sortir du coup en faisant une retranscription de sa main. Ce serait désagréable pour lui de lire après, parce que c'est lui-même qui a copié. Avec ses difficultés, il va copier du n'importe quoi peut-être. Maintenant, corriger ses erreurs, l'aider à apprendre ses leçons en lisant les mots, mais sans faute, pour l'aider à mieux comprendre. Maintenant, il faut segmenter les tâches, c'est-à-dire découper en petits morceaux ce qu'il y a à faire pour qu'il puisse enregistrer et bien le faire. Aussi, il faut lire, expliquer les énoncés, lui demander s'il a compris. Est-ce que ce que tu as fait, tu as compris? Qu'est-ce que je viens de dire? Et il reprend l'énoncé d'une autre manière, il reformule, et ça vous aide à comprendre que l'enfant a compris l'énoncé. Il n'a pas de mémorisation à cœur. Vous pouvez trouver d'autres manières pour l'aider à comprendre ses leçons, ce qu'il a à faire. Maintenant, faut bannir tout ce qui est poésie, parce que là, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut valoriser ses réussites dans les autres domaines, parce qu'il n'y a pas que l'orthographe à l'école. Maintenant, valoriser ses réussites, ses progrès, il faut donner moins de devoirs écrits à la maison. Et à la maison, il faut lire les leçons avec lui pour l'aider.
Exactement.
Voilà.
Donc tout ça, on sait que c'est un peu difficile pour les enseignants hein, de pouvoir faire tout ça. Quelque chose qui est possible en tout cas, c'est très important de le comprendre, c'est d'encourager les élèves par des phrases positives. Quand on dit « Oh non, c'est faux, tu es paresseux, tu n'as rien fait, fainéant, voilà. Tu n'as pas travaillé », tout
tu
ça,
es bon
ça,
à rien.
Voilà, ça casse l'envie de faire des efforts. Oui. Mais si on valorise les essais, même si l'enfant a échoué, mais si on reconnaît qu'il a essayé, alors là, il aura envie de poursuivre. Si on lui dit « Ah, là, il y a encore des erreurs. Mais c'est pas grave, j'ai vu que tu avais bien essayé et je te félicite parce que c'était pas facile, tu as fait beaucoup d'efforts, bravo. Tu feras mieux la prochaine fois. » Ben là, l'enfant, il est content, il a envie de recommencer. Alors que si on lui a dit « Tu as fait 4 erreurs, tu peux tout recommencer », là, vraiment...
Il se dira qu'il n'est bon à rien.
Voilà. Donc, on obtient de bien meilleurs résultats quand on valorise les gens. Et ça, c'est même dans la vie de tous les jours, hein, de trouver toujours le positif dans les choses, c'est important.
Voilà, avant de faire des remarques. Et en dehors de ça, donc, en gros, nous allons vous dire, il serait mieux de valoriser les réussites de l'enfant. Sinon, il va se construire une très mauvaise image de lui-même. Du coup, il n'aura plus confiance en lui. Et ça, il se dirait, je suis bon à rien. Et il devient adolescent comme ça. Il grandit comme ça. Tel adolescent, tel adulte. Bon. Si ça devient comme ça, il risque d'avoir des troubles psychologiques. Et quand ça se commence comme ça, il peut après commencer à bégayer ou se renfermer sur lui-même ou bien perdre sa joie de vivre totalement. Alors qu'il suffisait simplement de l'encourager. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire.
Exactement. Voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Si vous voulez contacter un orthophoniste, nos deux solutions, notre émission interactive un mercredi par mois à 16h30, ou sinon, nous contacter, Sœur Paulette, 94 12 27 12, c'est
ça ? Très bien.
On rappelle aussi aux pédiatres, aux médecins et aux enseignants qu'on les invite à nous contacter s'ils veulent qu'on vienne leur présenter un peu plus les troubles du langage et des apprentissages et les bienfaits de l'orthophonie.
Voilà.
On remercie aussi Bruno qui était à la régie aujourd'hui et qui nous a permis de faire cette émission.
Merci.
Chers amis, on se retrouve donc vendredi prochain à 9h30 sur Radio Immaculée Conception. Et d'ici là, belle semaine.